Bonjour, au micro, Ilan Rosanquier qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro de Chronique pour la paix. Alors que le processus politique est au point mort, le gouvernement israélien semble poursuivre son offensive contre la Cour suprême. Et dimanche dernier, sans trop attirer l'attention, un important projet a été approuvé par la Commission des lois. Ce projet vise à retirer à la Cour suprême sa compétence pour instruire les litiges fonciers en Cisjordanie. Pour y voir plus clair, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio Claude Klein, juriste reconnu, professeur émérite. Émérite, ça veut dire qu'il a accumulé beaucoup de mérites au long de sa carrière.
Oui, qu'il est retraité.
Professeur émérite à la faculté de droit de l'Université hébraïque de Jérusalem. Claude Klein, bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, pouvez-vous nous apporter quelques précisions sur ce projet qui, a priori, semble plutôt technique ?
Ben, je crois qu'il faut aller un peu en arrière, parce que la Cour suprême israélienne a réalisé à partir de 1968, c'est-à-dire très peu de temps après la fin de la guerre et le début de l'occupation, une chose qui n'a jamais été faite au monde, parce qu'il y a un droit de l'occupation. Je ne parle pas de l'occupation allemande, mais par exemple, les Français ont occupé une zone importante en Allemagne jusqu'en 1954-1955. Mmh. Alors la question est de savoir, est-ce que les tribunaux de l'État, par exemple de la France, sont compétents pour juger les actions des militaires en Allemagne à ce moment-là ? Eh bien, on n'a jamais vu ça dans le monde. La Cour suprême a dit que oui, qu'elle était compétente et qu'elle a commencé donc à intervenir pour juger d'actions contre des Palestiniens. Et c'était vraiment tout à fait révolutionnaire, inattendu. C'est une compétence qu'elle s'est arrogée et qui maintenant est bien en place. Alors là, actuellement, évidemment, l'un des thèmes sur lesquels se déroule la discussion, c'est qu'il y a eu des terres qui ont été expropriées de Palestiniens et que certaines de ces terres, donc, sont des terres privées, qu'on n'a pas le droit d'exproprier et la Cour intervient. Et voilà ce que le gouvernement, en tout cas Madame Shaked, voudrait interdire.
Donc maintenant, ces procédures vont relever de tribunaux israéliens classiques, dirais-je.
Écoutez, je mets un peu mon honneur en jeu et vous dire que ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas parce que je suis persuadé que dès que cette loi sera adoptée, il y aura un recours devant la Cour suprême contre cette loi et qu'il y aura un bras de fer terrible. Parce que la compétence de la Cour suprême, c'est vraiment une compétence qui n'est pas territoriale. La compétence, dans le cas actuel, on a attribué, enfin le projet ministériel, c'est d'attribuer la compétence au tribunal de district de Jérusalem, auquel Mme Shaked a nommé la semaine dernière une amie proche de ses idées. Mais je crois que la Cour suprême ne l'admettra pas. Et que nous allons soit vers un retrait, mais je n'en suis pas sûr, il faut voir aussi les développements politiques en Israël, soit vers un bras de fer avec la Cour suprême.
Et dans l'état actuel, qu'est-ce que ça change par rapport aux Palestiniens, par exemple, puisqu'ils auront quelle différence pour eux le fait de recourir au tribunal de Jérusalem ou de directement de s'adresser à la Cour suprême ?
On ne peut pas le savoir à l'avance, mais ce qu'on peut dire, c'est que les juges des tribunaux de district, s'ils sont des juges de rang, non pas inférieur, mais enfin quand même inférieur à la Cour suprême, sont moins enclins à se mettre à attaquer directement le gouvernement ou des mesures prises par la Knesset, en l'espèce donc des mesures législatives visant l'expropriation. Alors que la Cour suprême, comme vous le savez, est au-dessus, je dirais presque, de ses contingences et qu'elle n'hésite pas à le faire, et elle l'a fait à plusieurs reprises, amenant jusqu'à la nécessité de détruire des implantations qui ont déjà été construites.
Tout à fait. Donc l'argument disant qu'il s'agit en fait d'alléger la charge de travail qui pèse actuellement sur la Cour suprême, qui est inondée de dossiers, et d'apprendre avec des pincettes. Il y a des arrière-pensées derrière ce projet.
Ah, c'est certain. Ceci dit, la Cour suprême est vraiment submergée. Elle entend 20 000 cas par an de toutes sortes, pas seulement des recours contre des décisions administratives. Elle est la Cour suprême, la Cour d'appel suprême, en matière criminelle, en matière commerciale, civile, etc. Mais non, ce n'est pas la vraie raison.
Et est-ce qu'on ne peut pas y voir aussi, d'un point de vue symbolique, une forme d'annexion rampante, puisque jusqu'à présent, le fait qu'il y ait besoin de s'adresser à la Cour suprême, ça impliquait qu'en fait, le statut des territoires était différent de ce qui se passait derrière la ligne verte. Là, un argument est de dire qu'il faut rétablir l'égalité de traitement entre les citoyens israéliens qui, à l'intérieur de la ligne verte, s'adressent à un tribunal administratif et les Palestiniens. Et donc, si on établit une égalité de traitement, ça veut dire que les territoires occupés deviennent soumis à la même juridiction que les territoires israéliens.
Ah oui, c'est parfaitement exact. C'est rampant, je ne sais pas, mais c'est une annexion, une forme d'annexion déguisée. De toute façon, il y a des partis politiques en Israël qui voudraient qu'on annexe, mais c'est difficile à faire à cause de la population arabe. Mais l'annexion signifie d'abord une chose, le droit qui s'applique dans les territoires est le même que celui qui s'applique en Israël. Et là, c'est un tout petit premier pas. Encore une fois, je ne pense pas que cela se fasse.
On pensait la même chose s'agissant, enfin dans un autre domaine, s'agissant des universités par exemple. Et puis on a vu que les institutions d'enseignement supérieur à Ariel ou à d'autres endroits ont finalement été rattachées au système universitaire israélien et donc obtenir une égalité de traitement.
Oui, mais c'est beaucoup moins important. Je veux dire, l'université d'Ariel, il n'y en a qu'une. Effectivement, au lieu d'être dans le cadre d'un contrôle par le gouverneur militaire de la Cisjordanie, eh bien, elle est sous le contrôle du comité supérieur du comité de l'enseignement supérieur. Alors, c'est vrai, c'est également une petite entorse, mais elle n'est pas très, très importante. En tout cas, pas autant que celle dont nous parlons.
Que celle-là. Oui, là, c'est clair que tout ce qui touche à la Cour suprême et à la compétence juridique a quand même un niveau et un statut
et
particulier.
Et aux terres. Un des grands sujets dans tout le conflit, c'est la possession des terres.
Tout à fait. D'autre part, on a également l'impression qu'avec ce projet de loi, le gouvernement entendait faire d'une pierre deux coups, puisque ce sont des ONG dites de gauche, en fait les ONG pour les droits de l'homme, parce que la dimension droit de gauche là n'est pas forcément la plus pertinente, qui intervenait auprès de la Cour suprême. Or, on sait qu'il y a également une offensive, je dirais, contre ces ONG qu'on essaye de délégitimer, comme les faire apparaître comme étant plus préoccupés du sort des Palestiniens que du sort des Israéliens. Est-ce que ce projet de loi était susceptible également de compliquer la vie, l'action de ces ONG, ou pour elles, ça ne changeait rien?
Donc pour elles, là je ne crois pas, parce que ces ONG, notamment la plus importante, c'est l'Association des droits du citoyen en Israël, elle pourra, le cas échéant également, aller devant ces tribunaux. Mais oui, c'est une entorse, encore une fois. Mais là, ce n'est pas les ONG, je crois, qui sont visées.
D'accord. Et ensuite, est-ce qu'il y a un pouvoir d'appel au cas où le tribunal administratif prendrait une décision, je dirais, contraire aux intérêts d'une partie? Est-ce que l'autre partie a une instance?
Il y a toujours un droit d'appel.
Il y a toujours un droit d'appel.
En tout cas, ça peut être un recours pour excès de pouvoir, c'est-à-dire non pas un appel direct, mais un appel, ce qu'on appelle en France, un recours pour excès de pouvoir, comme si on allait devant le Conseil d'État. Et c'est pour ça que ça complique beaucoup les choses.
Alors, ce projet s'insère en fait dans un processus un peu plus large d'une attaque déjà qui date depuis plusieurs années contre la Cour suprême, dont le gouvernement actuel essaye de restreindre un petit peu le pouvoir. Est-ce que vous pensez, pourquoi cette opposition, cette hostilité à la Cour suprême?
La Cour suprême gêne le pouvoir politique, c'est très clair. Elle gêne la Knesset, elle est capable d'annuler des lois. Nous avons une quinzaine de cas d'annulation de lois. Il Il y a eu, je citerai très rapidement des cas plus simples et à la fois plus profonds. Quand Israël a construit le mur de séparation entre la Cisjordanie et Israël, la Cour a dit « oui, vous avez le droit de construire un mur, mais la question est de savoir où vous le construisez ». Et il n'y a pas de véritable frontière, il n'y a que la ligne verte. Eh bien, les militaires israéliens ont voulu empiéter sur le territoire palestinien pour diverses raisons, notamment pour englober dans le côté israélien des colonies qui existaient là-bas. Alors les Palestiniens sont venus dire, bon, d'une part que ça les privait, dire que la Cisjordanie a 6000 km², si vous faites ça sur 100 km, 10 km de large, vous avez déjà 1000 km, un sixième qui est pris. Mais ce n'était pas tellement ça, c'était que les paysans palestiniens n'avaient plus accès à leurs champs, etc. Et la Cour suprême a annulé le tracé en disant, oui, vous pouvez tracer, vous pouvez même parfois dépasser, mais il faut qu'il y ait une balance d'intérêt égale entre le dégât qui est subi par le Palestinien et le bénéfice qu'en tire le côté israélien. Et elle a annulé le tracé sur plusieurs dizaines de kilomètres. Alors, c'est révolutionnaire, n'est-ce pas ? C'est absolument révolutionnaire.
En fait, elle joue un peu le rôle du Conseil constitutionnel, ce qui n'est pas en soi choquant d'un point de vue juridique par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres pays où effectivement un certain nombre de lois sont soumises à une instance supérieure.
Oui. Il y a un problème, je dirais, il y a une espèce de péché originel, n'est-ce pas ? Le péché originel, c'est que si vous êtes en France et les autres pays dont vous parlez, il y a une constitution. Là, il n'y a pas de constitution. Et la Cour suprême, le 8 novembre 1995, trois jours après l'assassinat de Rabin, a, pour des raisons que je ne peux pas expliquer maintenant, décidé que les lois fondamentales étaient supérieures et qu'elle avait le pouvoir de contrôler les lois. C'est ce qu'on appelle, la droite, un coup d'État constitutionnel. Et donc, il y a un problème de légitimité à l'origine du pouvoir de la Cour suprême de vérifier les lois.
Mais on sent bien que, peut-être en Israël, plus qu'ailleurs actuellement, il y a quand même un besoin de contrôler, d'un point de vue au moins éthique et juridique, le pouvoir politique. Toutes les affaires sur lesquelles nous n'avons pas parlé, mais qui sont en toile de fond, montrent bien qu'il y a besoin d'un contrôle de cette instance-là pour éviter les dérives. Nous aurons l'occasion de reparler de tous ces sujets parce qu'effectivement, si on s'oriente vers un bras de fer, comme vous semblez l'envisager, à défaut de le prédire, puisque personne ne lit dans les boules de cristal, ça sera un thème qui restera très, très important. Il me reste à vous remercier pour ces éclaircissements et à souhaiter à tous nos auditeurs un Shabbat Shalom. Et je vous rappelle que...
Joyeux Pourim, parce que Jérusalem, Pourim, c'est demain.
Et joyeux Pourim, tout à fait. Et je vous rappelle que le 8 mars, au Cercle Bernin-Lazare, en coopération avec Jicol et La Paix Maintenant, est organisée une soirée consacrée à Jérusalem et à la fabrication urbaine de la ville de Jérusalem par Irène Salançon, qui est une géographe urbaniste. Et je vous invite à vous reporter au site de La Paix Maintenant ou Jicol, sur lesquels vous trouverez toutes les informations sur cette soirée, jeudi 8 mars, au Cercle Bernin-Lazare. Merci à tous et encore une fois, Shabbat Shalom et comme nous le dit notre invité Claude Klein, joyeux Pourim. Merci.